Bonsoir, Gilles de Tôte. J'appelle pour soutenir tous ces. Pour venir en aide et soutenir tous les riches de Poissy qui sont obligés de cohabiter avec les pauvres, qui sont obligés de vivre dans des grosses maisons alors qu'ils pourraient vivre dans des encore plus grosses maisons. Et donc, grâce à la maire, un élu de la République qui est proche d'eux, qui a compris leurs problèmes, qui sont obligés, ces riches, de, avec leur gros 4x4, de rouler à côté de petites voitures sans nom. Et juste, je me demandais si ne pouvait pas faire des tests, si tous les deux ans, comme pour les voitures, les maires des îles de la République, il ne fallait pas qu'ils passent des tests de capacité. Et s'il n'y a pas une limite d'âge pour s'occuper de la gestion d'une ville. Voilà, merci et bon courage aux riches de Poissy. Au revoir.
Le maire de Poissy a tout à fait raison de démolir ces saletés. Ça fait du cancer social. On n'est plus à 1960. Il est temps que la France soit propre. Il est temps que la France ne soit plus une pétaudière. Donc, si ça dérange Monsieur Mermet, avec le pognon qu'il gagne pour les conneries qu'il raconte, il a qu'à choper les mecs qui habitent là-bas, tous les voyous, tout ça, qui nous emmerdent, qui nous piquent les bagnoles, qui piquent des sacs aux vieilles dames, qui, elles, ont une petite retraite. Je dis bien, avec le salaire qu'il a pour les conneries qu'il débloque, il a qu'à les prendre chez lui, parce qu'il nous emmerde. Voilà, et la France est une pétaudière.
Oui, bonjour Monsieur Mermet, je vous appelle déjà pour vous féliciter pour vos émissions, c'est Vincent de l'Essonne, je suis chauffeur poids lourd, depuis peu propriétaire de ma maison, mais ça n'engage en rien, j'ai juste un petit reproche à vous faire à propos de vos émissions sur le fait que on apprend des choses un peu tard, comme l'émission d'aujourd'hui sur la cité de la Coudray à Poissy. Malgré que je sois propriétaire, je trouve inadmissible que des gens, qu'on expulse des gens de chez eux, qui ont toujours vécu à cet endroit, quelles que soient les chances qu'ils ont eues. Et moi, j'ai eu la chance, en sortant d'un quartier populaire, d'accéder à la propriété parce que j'ai un métier qui me permet de gagner ma vie aujourd'hui. Mais je pense que la France, vis-à-vis de ça, est très mal barrée. Surtout les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà, c'était mon message. J'ai pris à cœur cette émission en espérant que on sache que ce qui se passe dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent pour cette population. Merci à tous. Et puis, c'était Vincent du 91. Au revoir.
Oh, le petit chat. Mais c'est Radio Dio. Il faut que Radio Dio vive. Aïe, aïe, aïe. La radio libre de Saint-Étienne dépose son bilan après 26 ans d'émissions libres, sauvages et impertinentes. Elle trouve d'importantes difficultés financières, bien qu'étant composée d'une centaine de bénévoles. Pour éviter sa liquidation qui peut se décider en début juin, envoyez-lui sans attendre un message de soutien si vous croyez encore à la libre expression. À l'adresse suivante. No Kill Dio. nokildio@yahoo.fr. Merci, c'est Frédéric.
Voilà, No Kill Dio. Il ne faut pas que Radio Dio ferme à Saint-Étienne. Merci pour vos messages, amis modestes et géniaux auditeurs de là-bas, si j'y suis, même si certains, visiblement, ne nous aiment pas trop. On est toujours heureux de vous écouter, de vous entendre. Pour la pertinence et la qualité, la sincérité de tous ces messages. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro du mois de juin. Et bien sûr que le diplo se demande comment on en est arrivé là avec les recettes idéologiques du président Sarkozy. Un long papier de Serge Halimi, qu'on va retrouver, Serge Halimi. Tout un tas de papiers voitures. Notamment, je vous conseille de vous pencher sur la question des carburants verts. On dit, oh là, ça va être formidable, les biocarburants, fini la pollution, etc. Pop, 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 faut pas aller trop vite. Il faut se documenter. Et puis, eh bien, il y a 40 ans, c'était le 5 juin, la guerre des 6 jours commençait, éclatait, et 40 ans plus tard, eh bien, on vit au fond toujours sur les conséquences de cette guerre des 6 jours. On vit, oui, car ce qui se passe au Proche-Orient nous concerne plus ou moins directement, mais il y a évidemment un lien très très étroit et très sensible entre cette partie du monde et nous. Et puis bien d'autres papiers dans ce diplôme. Donc en route, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. Et j'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel. Écoute, c'est mon jogging, là je file à la réunion de ce lundi 4 juin à 20h avec tous les amis de Lille au Café l'Imaginaire. Maintenant, on a décidé, on y va au jogging. C'est 5 places Louise de Bétigny, dans le Vieux-Lille, à 20h. Salut Daniel, je t'assure, c'est super. On tient une super forme à Lille. Super, super forme. Salut Daniel.
Bonjour les AMG. Entendu ce matin Bernard Guetta à propos du G8. Les altermondialistes se trompent de cible. Tout ce qui s'y passe est informel, et ceux qui n'y sont pas sont des jaloux. Sympa pour le tiers-monde. Et si ce qui s'y passe est si peu conséquent, alors pourquoi cette citadelle est si bien gardée, avec un énorme grillage de plusieurs millions d'euros, je ne me souviens plus si c'est 23 millions ou 230 millions d'euros, 11 000 policiers, 3 000 soldats, 3 bateaux militaires. Et pourquoi sommes-nous si peu informés de son contenu, si ce n'est des banalités à l'avantage du G8 ?
Bonjour, amis bretons du Sud. Je vous appelle pour vous informer qu'il y a une réunion repère là-bas si j'y suis, au café Le Billabong, le premier jeudi de chaque mois, donc jeudi prochain, jeudi 7 juin, à partir de 21h. Ça sera sur le thème des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP du Loc notamment. Donc voilà, venez nombreux. Et puis j'en profite aussi pour dire qu'on organise sur le port de Vannes, samedi prochain, samedi 9 juin, une manif de droite à partir de 11h sur le marché. Manif de droite, ça se trouve sur internet aussi. C'est sympa. Voilà, bisous à tous et merci, à bientôt. Salut.
Au secours, Coluche. Les Restos du Cœur sont devenus une entreprise. Imagines-tu qu'à l'occasion d'un changement de locaux d'un centre de Rouen, les responsables nationaux ont mandaté pour une durée de 3 mois un coupeur de tête pour redynamiser l'équipe de bénévoles en place. Et ce, pour certains, depuis près de 20 ans. Les bénévoles qui s'étaient présentés dans les nouveaux locaux pour demander pacifiquement un entretien ont vu, avec stupéfaction, arriver sur la demande des responsables parisiens, les forces de l'ordre. C'est lamentable, et ce, d'autant plus si on ajoute les propos mensongers et diffamatoires de ce coupeur de tête, rapportés dans la presse régionale. Si tu retiens nos bons messages, cela nous aidera à faire connaître cette dangereuse et inquiétante dérive. Merci, c'est Jean-Claude de Rouen.
Bonjour Daniel, eh bien je t'appelle pour te mettre au courant de la fermeture de la médiathèque du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. C'est un coup de force contre un outil de culture très important. Il faut de toute urgence faire quelque chose contre ce coup de force. Personne n'est au courant, enfin beaucoup de gens qui fréquentent la médiathèque ne sont pas au courant. Et je trouve qu'il faut absolument se mobiliser pour empêcher cette fermeture qui est d'ores et déjà en train de se faire. Donc si tu peux faire une émission, je pense, ce serait très intéressant sur ce sujet. À très bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis, avec Serge Halimi, Dominique Vidal, Jean-Christophe Servan, Marc Andevelde et Maurice Lemoine, le monde diplomatique du mois de juin. Voilà, on va faire quelque chose de très original autour de ce numéro du Monde diplomatique de juin qui vient juste de sortir. On va parler de Nicolas Sarkozy avec Serge Halimi, qui s'est penché sur les sources idéologiques de Nicolas Sarkozy. Où Sarkozy va-t-il chercher tout ça? Eh bien, Serge Halimi nous répond.
Je me suis un peu intéressé aux antécédents historiques, souvent américains, du discours de Nicolas Sarkozy. Et je dois dire que depuis que j'ai terminé cet article, j'ai vu deux autres parallèles qui n'apparaissaient pas nécessairement à l'époque et qui maintenant me paraissent assez frappants. D'une part, vous vous souvenez que quand Nicolas Sarkozy a commencé sa campagne, l'un des thèmes qui était très à la mode était le thème de la dette. Il était nécessaire de réduire les dépenses, notamment de cesser d'embaucher des fonctionnaires lorsqu'ils partiraient à la retraite, pour réduire la dette. Et Ronald Reagan lui-même, une vingtaine d'années plus tôt, 27 années plus tôt pour être précis, avait fait campagne contre les déficits publics et l'endettement. Et il s'agissait pour lui de stigmatiser les dépenses publiques, sociales en particulier, et d'expliquer que les États-Unis vivaient au-dessus de leurs moyens. Naturellement, une fois élu, le principal souci de Ronald Reagan a été de baisser les impôts directs, une mesure qui a principalement profité aux plus riches. Et en moins de 4 ans, le déficit budgétaire américain, qui était scandaleusement élevé quand il atteignait près de 60 milliards de dollars du temps de Jimmy Carter, a atteint les 200 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il a presque quadruplé. Et là, on a un peu la même chose avec Sarkozy et Fillon, qui nous disent l'un des principaux objectifs qu'on aura, en tout cas c'est ce qu'ils disent au début de la campagne, c'est de réduire la dette publique. Et là, on apprend que la principale priorité pour eux, lorsque le Parlement se réunira en session extraordinaire, à supposer qu'ils aient une majorité absolue au Parlement, mais c'est tout de même le plus vraisemblable, ce sera de faire voter par ce Parlement un bouclier fiscal destiné aux plus riches, et la déduction d'intérêt pour les propriétaires qui achètent leur résidence principale, deux mesures dont on sait qu'elles seront particulièrement coûteuses, et la question de la dette, en quelque sorte, est mise sous le boisseau, ou en tout cas différée pour un meilleur jour. Donc on voit déjà là une espèce d'analogie, on utilise la question de l'endettement et des déficits, et puis une fois qu'on est au pouvoir, on oublie tout ça pour favoriser d'abord sa clientèle électorale, c'est-à-dire les revenus aisés, et leur donner ce qu'ils attendent. Et alors la deuxième chose, là ça m'a frappé, et ça m'a presque davantage amusé, c'est que la semaine dernière, en relisant mes notes sur la campagne de Ronald Reagan, je suis tombé sur cette déclaration qu'il a faite en octobre 1984, s'adressant à la Maison Blanche à un groupe de supporters noirs et hispaniques, et il leur disait « Est-ce vraiment une coïncidence si les zones les plus sinistrées du pays, les lieux de désespérance, sont ceux qui ont été les fiefs du Parti démocrate depuis si longtemps ?» Et je me suis dit « Ça, tout de même, c'est culotté. » D'expliquer que les endroits sont pauvres parce qu'ils ont voté démocrate. Et je me disais, en tout cas, en France, on va très loin, mais Sarkozy n'a pas été jusque-là. Eh bien, je me trompais, puisque je ne pouvais pas savoir que ce week-end, devançant en quelque sorte mes attentes ou mes craintes, Patrick Devedjian, secrétaire général délégué de l'UMP, nouveau président du Conseil général des Hauts-de-Seine, le département le plus riche de France après Paris, a fait cette déclaration, je cite, « Comment se fait-il que les Hauts-de-Seine aient si bien évolué et la Seine-Saint-Denis aient si mal évolué ? C'est parce que l'un était géré par la droite, l'autre était géré par le Parti communiste, et que les communistes ont ancré les gens dans la misère parce que c'était aussi une manière pour eux d'asseoir leur pouvoir politique. » Donc c'est très bien, bientôt on nous expliquera que si le 16e arrondissement et Neuilly sont si prospères, c'est parce qu'ils ont des élus de droite et que naturellement, si à Charleville-Mézières ou dans le Pas-de-Calais, ça va mal, c'est parce qu'il y a eu depuis longtemps des élus communistes. Donc je vois que ces recettes, y compris les plus bizarres, sont reprises par la droite française. Mais dans mon article, j'allais un peu au-delà de cette actualité, puisque j'insistais sur trois dimensions, en tout cas trois dimensions principales qui me paraissaient très importantes, qui étaient la présentation du candidat de droite Nicolas Sarkozy comme le candidat du peuple. Et effectivement, lorsqu'on est surtout soutenu par les milieux sociaux qui le soutiennent, c'était une performance et elle a eu des effets électoraux. puisqu'il est certain qu'il a attiré à lui une partie de l'électorat populaire qui n'avait a priori aucune raison de voter pour lui. La seconde dimension qui me paraissait importante, c'était de présenter ce candidat du peuple comme étant le candidat se dressant contre la pensée unique. Et je remarque que dans son premier discours de président de la République, discours qu'il a fait au Havre, il a cité la pensée unique, l'expression de pensée unique, à 17 reprises. Alors c'est très simple pour Nicolas Sarkozy, la pensée unique, c'est les autres. Donc tout ce qu'il veut faire, ce sont des mesures auxquelles la pensée unique s'oppose. Je cite, « La pensée unique ne veut pas entendre parler de protection. La pensée unique s'oppose à l'exonération des charges et des impôts pour les heures supplémentaires. La pensée unique s'oppose à la déduction du revenu imposable des intérêts des emprunts contractés pour l'achat de sa résidence principale. » Vous dites donc, je savais pas que la pensée unique avait autant d'idées. « La pensée unique récuse le bouclier fiscal à 50%. » La pensée unique disait que les peines planchées, ce n'était pas possible. La pensée unique ne croyait pas au traité simplifié. La pensée unique ne voulait pas de l'autonomie des universités. La pensée unique affirmait que je reculerais devant la réforme des régimes spéciaux. Bref, la pensée unique, c'est toujours ce qui s'oppose à Nicolas Sarkozy, alors même qu'il est maintenant président de la République, que le gouvernement est en quelque sorte à sa dévotion, que les médias ne sont pas particulièrement critiques et que les milieux d'affaires ne sont pas montés aux barricades en apprenant qu'il était élu. Mais même élu, il continue ce discours qui a pour objectif de le présenter comme un dissident. Et enfin, l'autre dimension sur laquelle j'insistais dans mon article, c'était cette dimension de la rupture et de la volonté politique. Parce que je crois que l'un des éléments qui explique sa victoire, c'est cette insistance sur la volonté politique. Et paradoxalement, en un sens, cet homme qu'on décrit comme libéral, et que dès lors qu'on le décrit comme libéral, on associe à l'idée que l'État ne doit rien faire et que c'est la main invisible qui se charge de tout, a bien montré que le néolibéralisme, ça n'est pas ça du tout. Le néolibéralisme, c'est utiliser le pouvoir de l'État pour transformer le rapport de force sociale à l'avantage des détenteurs de capitaux et à l'avantage des propriétaires. C'est d'ailleurs ce qu'avait montré Reagan, ce qu'a montré Bush aux États-Unis. Ils n'ont pas été élus président des États-Unis pour ne rien faire. De la même manière, Nicolas Sarkozy n'a pas été élu pour ne rien faire et il s'est présenté dans cette campagne comme l'homme de la volonté politique contre une gauche qui, elle, avait baissé les bras. Et on a donc cette situation assez paradoxale où il a opposé à la gauche son inaction et où il s'est présenté comme l'homme qui bousculerait les contraintes. Et je cite encore son discours là de président de la République, donc une fois que la campagne est terminée, ça continue sur le même thème. Pour bousculer les contraintes, pour entrancher les nœuds, il faut frapper fort, il faut agir sur tous les fronts à la fois, il faut créer un effet d'entraînement, il faut une masse critique. Souvenez-vous du général de Gaulle en 1958, souvenez-vous de Danton devant la Convention, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace et la France sera sauvée. Et naturellement, il dénonce implicitement la gauche, ce sont les frileux, je cite, ceux qui proclament que tout est impossible, ceux qui se cherchent toujours de bonnes raisons de ne rien tenter, ceux qui n'arrivent pas à s'arracher au dogme de la pensée unique, bref, les gens qui, comme Jospin, ont dit « l'État ne peut pas tout faire », etc., ont vu se dresser contre eux, empruntant parfois un discours qui appartenait au répertoire de la gauche, cet homme de droite qui a insisté sur la volonté politique et qui, insistant sur la volonté politique, s'est présenté comme celui qui combattrait la pensée unique de tous ses adversaires au service des plus défavorisés. Et ce discours, qui peut paraître paradoxal quand on voit qui le tient, a à l'évidence obtenu un certain impact. Il a obtenu un certain impact parce que c'était un discours construit. Parce que pour terminer, je voudrais quand même insister là-dessus. À la différence des campagnes américaines, ça a été une campagne où les discours avaient un sens, n'étaient pas uniquement conçus pour la télévision, le petit clip qui passera à la télévision. Lorsqu'il a fait son discours du Havre de président de la République, c'est un discours de 35 000 signes, c'est-à-dire l'équivalent de 20 feuillets, un discours construit qui énonce un corps de doctrine et qui a donné le sentiment à ses auditeurs qu'il avait davantage de détermination et davantage de volonté que la plupart de ses adversaires.
Ma France, c'est celle des travailleurs. Le mot ne m'arrache pas la bouche. Ma France, c'est celle de travailleurs qui ont cru à la gauche de Jaurès et de Blum et qui ne se reconnaissent pas dans la gauche immobile, qui ne respecte pas le travail. Eh bien, je veux leur tendre la main à ces travailleurs en leur disant « Nous allons revaloriser le travail, car nous croyons au travail ».
On en a plus qu'assez de devoir en permanence avoir le sentiment de s'excuser d'être français. D'ailleurs, s'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas.
Il nous faut décider d'un programme d'action innovant, courageux, ambitieux. Cela suppose, je n'hésite pas à le dire, un tournant majeur dans nos politiques économiques et sociales. Il n'y a pas de fatalité. Il nous faut revoir en profondeur nos modes d'action politique, savoir remettre en question ce qui ne marche pas, rompre avec la pensée unique et les recettes du passé qui n'offrent plus ni solution ni perspective.
On va continuer avec sur ce thème un petit peu des petites phrases et des longs discours. Parce que s'il y a bien des lieux qui propagent ces petites phrases, c'est les chaînes Tout Info. Or, le diplôme de ce mois-ci nous donne un papier de Marc Candevelle sur les chaînes Tout Info, c'est-à-dire BFM, iTélé, LCI, etc. Et vous avez enquêté là-dessus et vous avez découvert des journalistes hors sol.
Oui, derrière cette formule-là, en fait, souligne le développement dans ces chaînes-là de la figure du technicien de l'information, hein, comme les sociologues peuvent l'appeler. En fait, aujourd'hui, le système, à travers l'image des chaînes d'information continue, on peut dire pratiquement que le système n'a plus besoin de journalistes, en fait. La plupart des médias, en fait, utilisent principalement des grandes agences audiovisuelles d'images et de dépêches. Ça fournit le contenu de l'ensemble de ces tranches infos. Et donc, les journalistes qui travaillent dans ces chaînes-là se résument à des porte-micros. Donc, c'est pour ça, pour revenir sur la petite phrase.
Mais c'est bien, je me sens visé, je suis en train de porter. Allons-y.
Donc plusieurs journalistes que j'ai rencontrés dans ces chaînes-là, souvent jeunes, souvent issus d'écoles de journalistes, qui ont eu des cursus, tout ce qu'il y a de plus légitime dans la presse d'aujourd'hui, se plaignaient simplement du fait qu'ils n'avaient pas la capacité de répondre ou de poser des questions gênantes à l'ensemble des personnels politiques. Donc c'est la course à la petite phrase, parce que c'est celle qui sera reprise par l'ensemble des médias. Parce que ce qui est le plus intéressant, en fait, dans ces chaînes d'information continue, c'est ce que ça révèle sur l'ensemble du système médiatique.
On vous parle dans ce papier d'infos low cost.
Oui, parce qu'en fait...
Ça, c'est BFM.
Oui, ça, c'est Alain Veil, le patron de BFM, qui d'ailleurs, quand je l'ai rencontré, m'a dit qu'il n'aurait pas dû utiliser cette formule-là auprès des médias, mais c'est vrai que c'est des chaînes qui sont...
À bas prix, quoi, ça
veut
dire.
À bas prix, parce que le budget de BFM est de 15 millions d'euros, environ. BFM, c'est quoi, finalement? C'est principalement des présentateurs, ainsi que des journalistes qui travaillent en desk, c'est-à-dire qui travaillent sur des dépêches et des images d'agence. Et il y a très peu de travail d'enquête, de reportage. Les gens ont l'impression que ces chaînes-là donnent l'impression à leurs téléspectateurs qu'elles sont partout. Mais en fait, l'objectif principal de ces chaînes, c'est d'avoir une tête de gondole un peu partout, mais pas véritablement des journalistes qui travaillent sur des enquêtes et des reportages qui rencontrent des gens. C'est pas l'objectif de ces chaînes-là. Donc derrière le low cost, en fait, c'est justement ces patrons-là sont dans un fantasme de médias qui n'a plus besoin de journalistes.
Mais ces chaînes s'adressent à qui ?
Alors, elle s'adresse en fait à un public restreint. Hein. Il y a toute la prégnance d'un discours économique de cible, donc on parle des CSP+, des catégories socio-professionnelles supérieures, parce qu'en fait c'est les principales cibles des publicitaires. Donc ces chaînes-là sont relativement peu regardées, mais elles sont regardées par des décideurs. On croit qu'elles sont regardées par des décideurs et surtout
des gens qui se prennent pour des décideurs.
Voilà, qui se prennent pour des leaders d'opinion, comme on dit. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elles sont d'abord regardées par des journalistes. Et qu'en fait, le modèle des chaînes d'information continue, donc LCI, France Info, se développe sur l'ensemble des médias. Et là, elles sont principalement regardées par des rédacteurs en chef qui y trouvent matière à des idées de sujets.
C'est-à-dire que les rédacteurs en chef utilisent du sous-journalisme, de la sous-info pour propager leurs infos.
Aujourd'hui, dans la plupart des rédactions parisiennes, que ce soit de presse écrite ou de presse audiovisuelle, les rédacteurs en chef allument constamment leur télévision sur ces chaînes d'information continue. Parce que c'est la religion du temps réel. On a l'impression que si on donne des images, on fournit des images, on fait de l'information. Mais derrière cette religion du temps réel, c'est bien la négation d'une prise de recul, finalement, d'un esprit.
Mais c'est pas vrai pour LCI, par exemple. Sur LCI, on a des débats en permanence. On voit des gens qui débattent entre eux de choses très importantes et qui sont passionnantes. Ils prennent du recul. Ils se limitent pas seulement à des faits. Il y a les faits et puis il y a la réflexion. Et on en a beaucoup sur LCI. Moi, j'adore ça. On a des gens passionnants, non?
C'est des débats de forme, en fait. C'est les mêmes gens qui parlent des mêmes choses, qui sont dans leur même petit univers. Là aussi, ils sont hors sol d'une certaine manière. Hein. Ils vivent entre eux et ils sont très contents de pouvoir.
Même Jacques Julliard, non.
Ils sont pas.
Pas lui.
Ils sont pas fondamentalement en désaccord les uns avec les autres. Et moi, je regarde à titre de divertissement hebdomadaire le débat entre Jacques Julliard et Luc Ferry sur LCI. Je le conseille à tous les auditeurs qui ont envie de se procurer des moments désopilants, parce que ce sont des gens qui, grosso modo, sont d'accord sur tout, quel que soit le sujet abordé.
LCI Intégrale, c'est l'info nouvelle génération. Pour la première fois, c'est vous qui faites le programme. Sur votre ordinateur, les dernières infos en vidéo et au choix, trois façons de regarder LCI. La chaîne en live, les journaux en continu sur LCI Express et sur LCI Bonus, les coulisses et tous les événements en direct. LCI Intégrale à télécharger sur lci.fr.
Voilà pour l'essentiel, restez avec nous à suivre d'autres infos sur iTélé.
Il faut peut-être signaler à propos de LCI que récemment, quand Le Monde a fait état d'une information assimilant LCI à une annexe de l'UMP, eh bien la réponse de la chaîne a été de supprimer l'émission du Monde que Le Monde avait depuis une dizaine d'années sur cette chaîne à titre de sanction. En attendant que le journal s'excuse, ce qui est une pratique qui avait déjà été employée il y a quelques années à propos de Julien Drey, qui avait mis en cause TF1 et LCI et qui avait été interdit d'antenne, ce qui montre que tout de même le pluralisme de ces chaînes nouvelles qui devaient nous apporter en quelque sorte des créneaux d'expression supplémentaires est assez relatif.
Oui, enfin, au-delà, parce qu'on pourrait se réjouir de cette multiplication des chaînes d'information continue. Hein. Serge Halimi parlait de pluralisme, donc c'est une manière de célébrer le pluralisme de la presse, des médias. Mais en fait, derrière cette multiplication des chaînes d'information continue, on s'aperçoit qu'il y a ces chaînes-là produisent une uniformisation d'autant plus importante du discours médiatique, parce que elles réclament des images en temps réel, justement, et donc qui fournit ces images en temps réel? Des grandes agences audiovisuelles, TN, Reuters, qui sont seuls capables de fournir des images. Finalement, tout le monde a les mêmes images sous des marques différentes, sous un packaging différent. Donc, les responsables de cette chaîne-là, de ces chaînes-là, sont dans un total discours de marketing qui oublie totalement ce qu'est la fonction de journaliste, normalement, de vérifier des informations auprès de plusieurs sources avec un travail de terrain, d'enquête, de reportage. Celui-ci est inexistant puisque finalement, ces chaînes n'ont pas besoin de ça. Un responsable m'expliquait qu'en fait, la suite logique de ces chaînes-là, c'est un peu comme le blog, c'est-à-dire c'est la multiplication des témoignages, donc c'est la suppression même de la figure du journaliste. On peut en s'en réjouir ou pas. C'est l'évolution. Bon, alors d'un côté, il y a ce côté-là dans le mécanisme de ces chaînes-là, et de l'autre côté, donc on parlait des débats. Mais pour les propriétaires de ces chaînes-là, c'est d'abord des chaînes qui servent des politiques d'influence, des stratégies d'influence auprès justement des décideurs. Voilà. Alors après, là où on peut être inquiet, c'est le modèle qui est diffusé à travers ces chaînes-là, et notamment le fait que la plupart des jeunes journalistes professionnels aujourd'hui, c'est leur seule possibilité d'emploi. Ce qui fait dire à un journaliste que j'ai pu rencontrer, moi j'estime qu'on ne devrait pas avoir de carte de presse. M'a-t-il dit, on recycle de la dépêche, on est une entreprise de ravalement de l'info.
Voilà pourquoi il faut écouter chaque jour là-bas si j'y suis à 15h sur France Inter. Serge Halimi.
Oui, Marc Andevelde a dit quelque chose de très important quand il a souligné le rôle de relais d'influence que jouent ces chaînes. Parce que jusqu'à présent, ce sont des chaînes qui coûtent de l'argent. On peut se demander pourquoi des grands groupes comme Canal+, qui appartient à Vivendi, ou comme LCI, qui appartient à Bouygues, continue à entretenir des chaînes aussi coûteuses. Et dans son article, il nous donne l'explication en nous rappelant ce témoignage qui avait été publié par Péan et par Christophe Nick dans leur livre TF1 Un Pouvoir, quand Martin Bouygues, au moment où il lance la chaîne LCI, explique, je le cite, « 20 000 à 25 000 Français se considèrent comme des acteurs de premier plan de la vie politique, économique, religieuse, intellectuelle, scientifique, etc. En moyenne, chaque année, 1000 personnes au maximum peuvent accéder à la grand-messe du 20h de TF1, ce qui crée 24 000 râleurs. Avec une chaîne d'information continue, comme LCI, on se fera, en revanche, 25 000 copains. Nous allons servir à ces gens-là d'école de communication. Ils vont apprendre à répondre aux questions des journalistes. On va les aider à se rapprocher du premier rang. Nous serons leurs percepteurs et leurs tuteurs. » Et on comprend l'intérêt, effectivement, d'avoir ces chaînes-là, surtout si vous offrez une émission au Monde, ce qui a été le cas très longtemps, au Nouvel Observateur, au Point, à des tas de médias, à des tas de journaux. Vous êtes sûr que ces journaux seront beaucoup moins disposés à critiquer le grand groupe qui opère votre chaîne. Et vous allez donc disposer d'un bruit d'accompagnement favorable pour vos activités. Et on en a vu encore une fois la conséquence. Dès lors que l'un de ces médias émet une critique trop vigoureuse contre LCI ou peut-être demain contre e-télévision, etc., il est sanctionné en perdant son émission. Cette stratégie d'influence me paraît très importante pour comprendre que ces chaînes continuent à exister, alors même que jusqu'à présent, elles n'ont pas réussi à démontrer leur rentabilité en termes strictement financiers. Mais en termes d'influence et en termes politiques, la rentabilité de ces chaînes est évidente.
24 heures sur 24, le monde vit sur LCI.
Aïe lolohe, aïe lolohe, aïe lolohe, Chavé no lo tumba nadie.
Aïe lolohe, aïe lolohe, aïe lolohe, Chavé no lo tumba nadie. Aïe Chavé no lo tumba nadie, porque tiene la razón, y más que viene apoyado en nuestra constitución.
Aïe lolohe, aïe lolohe, aïe lolohe, Chavé no lo tumba nadie.
Aïe, tiene para PDV. Porque los bolivarianos la vamos a defender.
Ay, lo loje, ay, lo loje, ay, lo loje, Chávez no lo tumba nadie.
Vamos estudiantes y los profesionales, vamos a cantar sabroso y pa'lante vamos a dar.
Ay, lo loje, ay, lo loje, ay, lo loje, Chávez no lo tumba nadie.
Y el grupo Madena con nuestra canción, apoyando siempre la revolución.
Ay, lo loje, ay, lo loje.
Chávez no lo tumba nadie porque tiene la razón y más que viene apoyado con nuestra revolución.
Ay, lo loje, ay, lo loje, ay, lo loje, Chávez no lo tumba nadie.
Alors, on va tout de suite se tourner vers Maurice Lemoine. Est-ce que pour autant, Maurice Lemoine, il faut supprimer ces chaînes comme votre président Chavez, bien aimé, vient de le faire au Venezuela. Shame on you.
Je vois où vous voulez en venir, Daniel Mervet. Alors, ce qui se passe au Venezuela...
En quelques mots, parce que tout le monde parle de cette histoire.
Oui, non, faut quand même en dire deux mots, quand même. C'est que le problème est de savoir si c'est une atteinte à la liberté d'expression, ou si c'est, ou si on est en face d'un phénomène où ce qui est normal est présenté comme extraordinaire et scandaleux. Bon. Qu'est-ce qui se passe au Venezuela avec, non pas la fermeture, mais le non-renouvellement de la concession de RCTV, c'est tout simplement le droit pour un État de ne pas renouveler une concession. Alors, à cet égard, on va faire un parallèle. Je ne vous demande pas l'interdiction de TF1, pas plus que de LCI, mais vous savez que TF1, comme dans tout État, je veux dire, l'espace hertzien appartient à l'État, et que TF1 a une concession. Elle a eu cette concession en 1987, elle a été renouvelée en 2002. Et il n'y a pas très longtemps, un redoutable gauchiste, qui a mis en cause les collusions entre le pouvoir politique et les grands médias, s'est posé la question concernant TF1.
C'est Bouchy, c'est François Bayrou.
J'en ai bien peur, oui, j'en ai bien peur, mais quand même, non, mais il faut le dire, parce que c'est là le problème. Le vrai problème, il est là, sur ce qui se passe avec Radio Caracas Télévision Venezuela, RCTV. La loi votée il y a 20 ans stipulait qu'il fallait vérifier que les engagements pris par les chaînes, notamment en matière de programmes culturels, étaient tenus. Ces rendez-vous fixés par la loi n'ont jamais été tenus et l'on a prolongé, sans que personne ne s'en aperçoive, la concession sans la moindre discussion. Bon. Or, effectivement, le problème qui est posé, c'est est-ce qu'une chaîne télévisée, quelle qu'elle soit, Lorsqu'elle reçoit une concession de 15 ans comme TF1 ou de 20 ans comme RCTV au Venezuela, doit considérer qu'elle a une concession en perpétuité. Non, je veux dire, l'État, un gouvernement de droite ou de gauche pourrait très bien décider un jour que TF1, qui a obtenu sa licence sur le concept du mieux-disant culturel, n'a pas rempli ses engagements et qu'on peut tout simplement ne pas renouveler la concession. En ce qui concerne RCTV au Venezuela, c'est uniquement l'espace hertzien, effectivement, qui lui est retiré. En même temps, RCTV peut continuer et continue à émettre sur le câble.
Oui, mais ça, c'est une réduction de l'audience considérable.
Non, parce que l'audience de RCTV, c'est essentiellement c'est Caracas. Donc le câble, le satellite, vous savez que même dans les campagnes vénézuéliennes, on reçoit la télévision par satellite. J'ai même vu, puisque j'ai fait un reportage récemment, j'ai passé 3 semaines avec les indigènes, les Indiens du Venezuela, dans des villages indiens très pauvres. Vous avez une antenne parabolique et vous avez les indigènes vénézuéliens en train de regarder les matchs entre Liverpool et Arsenal. Donc RCTV ne disparaît pas. Ensuite, il y a un cahier des charges pour une chaîne de télévision. C'est vrai pour TF1, c'est vrai pour M6, c'est vrai pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passerait si TF1 avait, en 2002, appuyé un coup d'État contre le président en exercice? Je ne suis pas sûr que sa concession lui serait rénovée. Qu'est-ce qui se passerait? On a aussi un Conseil supérieur de l'audiovisuel avec un certain nombre de règlements. Si TF1 diffusait de la pornographie à des heures qui ne sont pas celles correspondant à la pornographie, si TF1 diffusait des publicités clandestines pour l'alcool, si de temps en temps il y avait des images subliminales, ce sont des choses qui ont été prouvées, si lors des dernières élections législatives ou des prochaines élections législatives, TF1 appelait, alors non pas à travers un débat, non pas à travers un intervenant, mais appelait en tant que politique de la chaîne à l'abstention, ou si, lors de la dernière présidentielle, TF1 avait diffusé en permanence des rumeurs sur la fraude qui était en train d'organiser le gouvernement, alors que les élections, on le sait tous, depuis l'arrivée de Chavez, ont eu lieu en présence d'observateurs internationaux qui ont toujours affirmé et confirmé que la démocratie était respectée dans ce pays. Donc on est dans un phénomène tout à fait normal. Je veux dire, il n'y a pas de quoi.
Serge Halimi.
Moi, je crois que le problème de fond, c'est de donner au pouvoir politique la possibilité de renouveler ou de ne pas renouveler les concessions, et qu'il est bon que ce soit une autorité indépendante qui le fasse. Ce serait, par exemple, le cas en France si nous avions un CSA qui faisait son travail et qui aurait alors constaté que les engagements pris par TF1 en 1987, au moment où ils ont obtenu leur concession, et notamment celle du pluralisme, et celle de la diversité, et celle de la culture, au moment des audiences devant le Conseil de l'audiovisuel de l'époque, Monsieur Bouygues et Monsieur Tapie disaient « Nous serons une chaîne culturelle, bien sûr qu'il y aura des opéras en prime time, bien sûr qu'il y aura des pièces de théâtre. » Et puis après, quelques mois plus tard, vous avez cette déclaration de Bouygues disant « Faire de la culture en prime time, ce serait un crime économique. » Et je ne parle même pas des déclarations de Lelay expliquant que l'objectif de sa chaîne, c'est de vendre du temps de cerveau disponible aux annonceurs. Alors là, il serait normal qu'une autorité indépendante estime que les conditions de la concession n'ont pas été respectées. En un sens, le problème au Venezuela, ça n'est pas que la concession ne soit pas renouvelée. Elle n'avait aucune raison de l'être, compte tenu des transgressions nombreuses dont cette chaîne s'était rendue coupable. C'est que le système en place donne au pouvoir politique ce pouvoir de renouveler ou de ne pas renouveler la concession, et qu'il serait préférable que ce soit une autorité indépendante qui puisse se livrer à ce type d'appréciation.
Presque 70% de l'opinion vénézuélienne est opposée à cette fermeture.
Daniel Mermet.
Ah.
Daniel Mermet, vous savez que pendant des mois et des mois et des mois, on a pu lire et entendre que 70% de la population vénézuélienne voulait le départ de Chavez et qu'il a gagné le référendum révocatoire avec 60%.
Donc ça vaut rien, ce sondage-là.
Non, vraiment, pour le coup, ça vaut rien. Oui. C'est complètement bidon.
Je signale aux auditeurs de là-bas, si j'y suis, qu'ils peuvent, sur le site labas.org, la-bas.org, voir deux éclairages sur cette affaire. L'un de Chomsky, qui nous a répondu spécialement, quelques lignes, c'est très bref, et une explication de Bernard Cassen.
Jacques Garat, le journal d'interactualité.
La guerre a éclaté ce matin au Proche-Orient. Les choses ont été en s'aggravant de plus en plus tout au long de la matinée. Tout a commencé aux premières heures du jour entre Israël et la République arabe unie. Mais à présent, tous les pays arabes soutiennent effectivement, militairement, les Égyptiens. Les aviations arabes ont commencé de bombarder Israël. Des combats au sol ont lieu. La vieille ville de Jérusalem est incendiée. Ainsi, après des semaines de crise, après des années d'escarmouches aussi, c'est la guerre qui a éclaté avec une violence qui paraît d'autant plus grande qu'elle a été plus longtemps contenue. André Chemama, l'envoyé spécial permanent de l'ORTF à Jérusalem. André Chemama.
La Jordanie et la Syrie sont bien engagées dans le conflit qui a commencé ce matin à la seule frontière israélo-égyptienne. De ces trois fronts, des bombardements ont pris comme objectif les villages agricoles, Kibboutzim et Moshavim, dans la région de Gaza et le long de la frontière jordanienne et syrienne. À Jérusalem, le bruit des détonations a diminué d'intensité, mais une forte odeur d'incendie se fait sentir depuis quelques instants. Les services des pompiers n'ont pas été mis en action et il est possible que ces fumées aient été portées par le vent depuis la partie jordanienne de la ville où, effectivement, des incendies ont été signalés.
Alors on continue et on finit avec le diplôme de ce mois de juin sur une date très importante qui est l'anniversaire de la guerre des six jours. C'était le 5 juin 1967 et Israël se lançait dans une attaque préventive. Est-ce que Dominique Vidal peut nous résumer déjà ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a deux images de couverture du France Soir de l'époque. C'était le France Soir de Lazareff qui montre en 2-1
qu'il y avait beaucoup de lecteurs.
Il y avait 1 million de lecteurs à l'époque et on nous disait faites comme tout le monde, lisez François. C'était la pub. Voilà, il y a deux images, enfin deux-une de François, donc de juin 67. L'une qui dit les Égyptiens attaquent Israël et le lendemain, François titre c'est la guerre au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux titres ?
C'est pas le lendemain, c'est le même jour. C'est-à-dire que la première version qui a été donnée de l'agression israélienne contre l'Égypte, c'est que, contrairement à l'évidence, c'était l'Égypte qui avait attaqué Israël. Donc il y a eu une espèce de fiction d'agression égyptienne qui n'a pas duré longtemps, mais suffisamment pour marquer l'opinion. Ça en dit long d'ailleurs sur ce qu'étaient et les médias, et la classe politique et l'opinion à l'époque. On a donc dans le diplôme de juin consacré 5 pages à cet événement parce que c'est le grand tournant du conflit israélo-palestinien, du conflit israélo-arabe. Et on vit encore aujourd'hui, pour l'essentiel, je vais essayer de le dire, dans les conséquences de ce tournant. Alors les lecteurs vont trouver, et vos auditeurs s'ils veulent bien se procurer le Monde diplomatique dans tous les kiosques...
En vente partout,
vont trouver un article d'Henri Laurence qui montre comment la crise s'est nouée, comment elle a débouché sur la guerre. Un article de Basma Kodmani qui montre les conséquences pour le monde arabe de cette guerre. Un autre de Meron Rapoport d'Haaretz sur les conséquences pour Israël. Et puis, j'ai commis ce petit article avec Alexis Berg sur l'opinion française à l'époque. Je ne vais pas ici résumer ces articles, ça n'aurait pas de sens. Ce que je voudrais dire, c'est en 4 points en quoi la guerre des six jours a changé la face du Proche-Orient. Le premier point, c'est évidemment toute la géopolitique régionale. Jusque-là, rappelez-vous, les Israéliens occupent 78% de la Palestine historique, mais il reste 22% qui sont pour une part annexés par la Jordanie, c'est la Cisjordanie, et occupé par l'Égypte, c'est la bande de Gaza. Donc jusque-là, les Israéliens peuvent se revendiquer de la légitimité internationale en disant, écoutez, s'il n'y a pas d'État palestinien, c'est pas de notre faute. Les pays arabes n'ont qu'à en créer un. Avec la guerre des six jours, cette situation bascule complètement. Israël se retrouve seul maître de l'ensemble de la Palestine historique, donc en violation totale des résolutions des Nations Unies. Alors évidemment, ils disent, on va échanger les territoires contre la paix. Sauf que, dès l'été 67, commence l'annexion de Jérusalem-Est et la colonisation de ces territoires. Donc, on est dans une situation où De Gaulle, avec une vision, il faut le dire, quand même assez prémonitoire de cette réalité, expliquera dans la fameuse conférence de presse de novembre 67, je le cite, « Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il appelle terrorisme. » On croirait le résumé des 40 ans qui se sont déroulés depuis. Deuxième tournant de cette guerre, je dirais pour le nationalisme et le socialisme arabe. La guerre de 48 avait débouché sur une série de révolutions dans le monde arabe, où le mouvement national avait pris les rênes de l'Égypte, de l'Irak, de la Syrie, etc. Là, c'est l'inverse. Cette guerre va marquer l'entrée en crise du nationalisme arabe, avec à la fois l'entrée en crise du modèle économique, bien sûr, avec le début de ce qu'on va appeler l'infitar, l'ouverture économique vers l'Occident, mais aussi, bien sûr, l'échec face à Israël, deux pays qui ont été incapables d'empêcher l'occupation du reste de la Palestine. Et au fond, 40 ans plus tard, on vit encore dans les conséquences de cette défaite pour le monde arabe, puisqu'on a cette montée de l'islam politique, du fondamentalisme, qui se fait sur l'échec, sur l'impuissance face à Israël, sur la question de la Palestine, sur la faillite économique, sociale, démocratique de ces régimes nationalistes, socialistes de l'époque, sur le coût absolument exorbitant de la conversion au capitalisme, l'infitar, et sur l'absence d'alternative de gauche à cette réalité. Troisième tournant, et il est très important, je crois, à comprendre, c'est l'entrée en force des États-Unis et l'amorce de déclin de l'Union soviétique dans la région. Les États-Unis, avec 67, prennent le relais définitif de la Grande-Bretagne, qui avait dominé toute la région depuis le 19e siècle, et s'imposent non plus, comme ils l'avaient fait en 56, en opposition à Israël, mais en alliance avec Israël. On oublie souvent que jusque-là, ça n'était pas le cas. La politique américaine était extrêmement réservée, hésitante, contradictoire à l'égard d'Israël. À partir de 67, Israël devient le relais incontournable, à la fois économique, politique, militaire, de la politique américaine. Dans cette région, comme ailleurs, le Vietnam du Sud, l'Afrique du Sud ou la Corée du Sud pouvaient l'être. C'est pas un statut particulier, c'est le même type de politique de relais. À l'inverse, on va avoir, du fait de la défaite de 67, un recul de l'Union soviétique qui, d'une part, a été incapable, avec un modèle d'ailleurs transposé de manière caricaturale, de permettre un développement économique et social durable de ces pays, mais qui a aussi été incapable, malgré beaucoup d'aide en matière d'armement, en matière diplomatique, de les aider à empêcher l'occupation de toute la Palestine. Et donc on aboutit, c'est le symbole, au passage de Nasser à Anwar al-Sadat, et Sadat dit à l'époque, les États-Unis disposent de 99% des cartes. Et c'est ça qui change cette réalité. Dernier point, pour en terminer, de tournant de 67, c'est pour Israël. Parce que ce qui est apparemment une victoire israélienne, une victoire énorme, puisqu'Israël multiplie par 4 son territoire, occupe Jérusalem, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï égyptien, le Golan syrien, eh bien, en fait, cette victoire-là va créer des zones de faiblesse extrêmement fortes en Israël. Pourquoi ? D'abord parce que la main-d'œuvre arabe à bas prix, le marché de la colonisation, vont contribuer effectivement à l'accélération de l'économie, mais surtout à la transformation capitaliste extrêmement rapide d'une économie qui jusque-là était encore marquée par la présence des kibboutz, d'un secteur public puissant, etc. Deuxièmement, parce que l'égalitarisme de cette société israélienne, issue de sa construction avant-guerre déjà, va être complètement renversée dans une économie qui est sans doute une des plus inégalitaires du monde. Meron Rapoport signale qu'Israël occupe la 62e place mondiale dans l'indice de l'égalité. Troisièmement, on a, sur le modèle que vous connaissez bien, Daniel, puisque vous en avez souvent parlé dans votre émission, de la gangrène, c'est-à-dire comment la violence coloniale française en Algérie a été importée dans la société française, on a exactement le même phénomène, c'est-à-dire que la violence de l'occupation, petit à petit, a atteint, contaminé la société israélienne, qui est en particulier, je donne deux exemples extrêmement précis, une dont la situation est la plus grave en matière de femmes battues et d'enfants maltraités. Ça ne vient pas de n'importe où.
Les femmes battues et les enfants maltraités, c'est la conséquence de la guerre des six jours, 40 ans après.
Non, pas seulement la guerre des six jours, de l'occupation. C'est-à-dire que ces soldats israéliens qui, génération après génération, sont amenés dans les territoires occupés à se comporter d'une manière inhumaine, d'une manière violente, d'une manière brutale, avec la population palestinienne. C'est inutile d'expliquer en détail comment et pourquoi, on en parle hélas souvent, enfin plus nous que d'autres d'ailleurs. Eh bien ces soldats, quand ils rentrent chez eux, il n'y a pas tout d'un coup une espèce de sas qui fait qu'ils se débarrassent de ces comportements et de ces réflexes de violence. Et beaucoup, beaucoup de sociologues israéliens, beaucoup de médecins, de psychiatres, disent combien ces phénomènes sont vrais. Ils sont vrais aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, dans la société palestinienne, qui est devenue, depuis la deuxième intifada, une société extrêmement violente dans les rapports humains entre hommes et femmes, entre parents et enfants, etc. Et globalement, surtout, toutes les forces vives, les énergies, les richesses ont été dirigées depuis 40 ans vers la défense, vers l'armée, et cela, ça se paye aussi en termes de développement économique et social. D'où d'ailleurs le traumatisme de la guerre du Liban, parce que cette guerre de 67 et les suivantes, qui étaient censées apporter la sécurité à l'État d'Israël, elles aboutissent aujourd'hui, 40 ans après, à une situation où Israël vient de connaître la première défaite de son histoire. L'armée, une des plus puissantes du monde, n'a pas été capable de bousculer une guérilla de quelques milliers d'hommes. Et Israël, aujourd'hui, se pose réellement la question de son avenir, malheureusement dans des conditions où l'absence d'alternatives...
De son avenir, pas de son existence.
Non, de son avenir. De son avenir. Mais vous savez, l'avenir à long terme, quand les rapports de force évoluent et quand ils évoluent avec des étapes aussi traumatisantes que celles de la guerre du Liban, écoutez, la question c'est simple, c'est... Est-ce qu'il faudra qu'il y ait des roquettes qui tombent sur Tel Aviv ou Jérusalem pour que les dirigeants israéliens se disent peut-être qu'il faut abandonner la politique de la force et essayer d'aller vers la force de la politique, essayer de négocier avec les Palestiniens, essayer de négocier avec le monde arabe. Donc c'est pour dire que 67, au fond, ça a fait entrer le Proche-Orient dans un paradigme, pour employer un mot qu'on aime bien aujourd'hui, qui dure encore aujourd'hui. Nous sommes encore aujourd'hui dans le, ou plutôt les paradigmes de 1967.
Merci à tous. Merci à Dominique Vidal, Marc Andevelde, Serge Halimi, Maurice Lemoine et Jean-Christophe Servan, qu'on n'a pas entendu, faute de temps, mais je vous conseille son long article où il forge un mot, l'Afro-Amérique-Afrique, ou comment des lobbies noirs américains soutiennent les intérêts de Washington et des États-Unis dans leur lutte d'influence en Afrique contre la Chine, qui elle aussi convoite les richesses de l'Afrique. Ça peut paraître compliqué comme ça, ça ne l'est pas tant que ça, et en tout cas, c'est passionnant. À signaler également le numéro de Fakir, le numéro, le journal de François Ruffin qui est publié à Amiens, et puis aussi au sujet de la guerre des six jours, Arte consacrera une soirée du mercredi 6 juin 2007 à cette guerre des six jours. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission et beaucoup d'autres sur là-bas.org, la-bas.org, le site non officiel de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Pierre Monsigny et Marc Garven, c'est Koyen Guyenne et Raphaël Moutéa qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert, se tient près du répondeur à l'affût de vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Vous pouvez aussi nous joindre sur le mail de là-bas si j'y suis, daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.